Voici le cinquième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1986. Le programme, la première pub contre la drogue, la première pub aussi pour la capote, une nouvelle pièce de 10 francs qui ressemble à une pièce de 50 centimes, une série d'attentats qui frappent la France tout au long de l'année, et 1986 qui se termine par la mort de Malik Oussekine.
1986, on de la raconte sur Europe 1.
En 1986, un médecin de Versailles, le docteur Saillon, s'alarme des ravages de la drogue chez les jeunes. Et il sollicite son ami publicitaire, Jacques Séguéla. Et Séguéla planche alors sur une publicité pour prévenir les adolescents des dangers de la drogue. Il s'entoure du réalisateur et photographe Jean-Marie Perrier, qui trouve la punchline. La drogue, c'est de la merde.
La drogue, c'est de la merde, c'est le premier slogan que j'ai trouvé. Et quand j'ai dit ça à l'agence chez Séguéla, ils ont été agressés. Ils ont dit oui, non, bon, je sais pas, cherchons, travaillons là-dessus. Et puis alors on en a eu d'autres, la drogue c'est nul, non à la drogue, moi je dis non à la drogue. Enfin, tout un tas de slogans qui étaient justes, hein, qui correspondaient au message, mais qui n'auraient pas choqué assez les gens. Je crois que celui-là présente l'avantage que les enfants auront envie de le répéter. Et s'ils le répètent, leurs parents pourront leur demander de changer de terme, mais ils ne pourront en tout cas pas leur dire que la phrase est fausse.
C'est la première fois qu'une campagne contre la drogue est réalisée en France. Elle se décline sur les panneaux d'affichage, à la radio et à la télévision, sous la forme d'un clip d'une minute, un clip sans dialogue, qui met en scène une collégienne et un collégien face à un dealer. Pour le deal, ils ont rendez-vous tous les trois dans les toilettes du collège. Le gamin qui se la joue gros dur accepte le pochon de drogue, mais au final, il le jette dans les chiottes et il tire la chasse. Cette pub fait un carton. À la rentrée 1986, tous les collégiens et les lycéens connaissent le slogan et l'objectif est atteint pour Jacques Séguéla et pour Jean-Marie Perrier.
Je pense que ça peut peut-être faire commencer les conversations indispensables entre les adultes et les enfants sur ce problème. Parce que si on ne leur parle pas aux enfants, alors on les laisse tout seuls en face d'un problème qui les dépasse. Le secret d'une campagne destinée à des enfants et des jeunes adolescents, c'est que quelque part, elle déplaise aux adultes.
Vous êtes sûr que vous serez tout à fait dissuasif ?
Je suis convaincu en tout cas que la phrase l'est, que si des enfants très jeunes, même s'ils ne la comprennent pas, s'il cela rentre dans leur petit cerveau, cette phrase, elle ne peut en tout cas pas leur faire de mal. Parce que elle est délivrée dans le film par des enfants pour des enfants.
Une autre campagne publicitaire marque l'année 1986. Une pub pour les préservatifs, cette fois. Il s'agit de lutter contre le fléau du sida. Cette campagne publicitaire est inédite.
Voilà la liste. Du shampoing doux, du maquillage waterproof, une crème solaire protectrice et une crème solaire très hydratante, des préservatifs.
Des préservatifs ?
Oui, des préservatifs. Tiens, regarde.
Trois amis qui partent en vacances. Indispensable à emporter, les préservatifs.
Moi, j'en ai.
C'est l'un des exemples présentés dans ces clips, réalisés par l'association AIDE, qui lutte contre le sida. Pour la première fois, on y montre des préservatifs et on y parle éducation sexuelle. Jusqu'ici, la publicité pour les préservatifs était interdite car assimilée à la propagande antinataliste. Aujourd'hui, la prévention est la seule arme contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida.
La France est très en retard sur l'utilisation de la capote. Rendez-vous compte, le secteur pèse 10 millions de francs chez nous et 550 millions en Angleterre. Selon un docteur de l'Organisation mondiale de la santé, cette loi qui autorise la publicité pour les préservatifs en France était urgente.
Les informer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on leur dira, mesdemoiselles, mesdames, ayez tout un préservatif dans votre sac, car l'approche femme-homme, les Suédois nous l'ont bien fait comprendre, est beaucoup plus facile. La jeune fille proposera un préservatif à son partenaire masculin, au lieu que ce soit quelquefois le partenaire masculin qui l'impose. Et par ce système-là, eh bien, les jeux de l'amour seront même peut-être plus agréables dans certains cas. Et en plus de ça, cela joue un rôle non négligeable dans la prévention contre les MST.
Et déjà, un nouveau spot publicitaire est dans les tuyaux. Et il fait grincer quelques dents. Il s'agit de mettre en scène deux hommes nus. Plusieurs associations s'insurgent, comme l'Association pour la dignité humaine qui regroupe 500 familles de la région Rhône-Alpes.
Elle pourrait donner l'idée à un jeune qui aurait au fond de lui une vague idée d'ambiguïté, de laisser exploser cette ambiguïté sexuelle et donc de devenir lui-même homosexuel. Donc je pense que c'est une publicité à double tranchant.
Comptez-vous demander l'interdiction du passage à la télévision de cette publicité?
Oui, je pense. Je pense que la publicité est à faire, mais sous un autre aspect.
Ces cris d'orfraie n'y changeront rien. Et le clip mettant en scène un couple homosexuel sera bien tourné et diffusé.
Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve qui fasse s'en aller. S'en aller. Comme le jour avançait, en moi je pensais. Ce n'était pas un rêve. J'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans ma réalité.
C'était Téléphone avec Le jour s'est levé, dernier single du groupe qui va se séparer en avril 1986.
1986, Ondelat raconte sur Europe 1.
En octobre 1986, elle débarque une nouvelle pièce de 10 balles gravée par Joaquim Jiménez. En exclusivité, un reporter d'Europe 1 va la présenter dans les rues de Paris et elle fait beaucoup causer.
Bonjour monsieur Le Monde, s'il vous plaît.
C'est 10 francs. C'est le nouveau 10 francs. Je ne savais pas.
Vous prenez ma pièce là
Non, elle est bonne.
Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être pour téléphoner ça, non?
C'est très intéressant, mais je sais pas ce que c'est.
Qu'est-ce que ça peut être?
Une pièce de monnaie. Enfin, moi, j'en ai jamais vu pour le moment.
C'est la nouvelle pièce de 10 francs.
Ah. Je l'avais jamais vue. Elle est réellement sur le marché de la monnaie.
On va la confondre avec d'autres pièces, non? Bah, je la trouve trop petite, hein, par rapport à 50 centimes. On dirait 50 centimes, quoi. Ah bah oui, bah, je la prends si ça peut...
Ah, elle est chouette. Moi, je la trouve pas mal, cette pièce.
Ouais, c'est pas mal, c'est original.
Elle est bien trop petite.
Ben justement, si elle est petite, c'est qu'elle sera moins encombrante dans les poches. Ah ouais, ça fait même bruit que la pièce de 50 centimes. Ah ouais, hein. Alors on croirait que c'est une pièce de 50 centimes. Résultat, il y a beaucoup de gens qui vont être ruinés.
C'est comme les puces, plus ça va, plus ça devient petit.
Cette pièce de 10 francs est plus petite que la précédente. Et plus légère, 6,5 grammes. Et c'est pour ça qu'on la confond avec la pièce de 50 centimes. Édouard Balladur, le tout frais ministre des Finances, n'y est pour rien. C'est un choix du gouvernement socialiste précédent. Mais au cours d'un déplacement en province, il prend conscience du problème, comme il le raconte à Jean-Pierre Elkabbach.
Une fois, il m'est arrivé d'aller en province à une réunion et une vieille dame s'est approchée de moi et m'a dit « Est-ce que vous arrivez à voir une différence entre ces deux pièces ?» Elle m'a tendu deux pièces, l'une de 50 centimes et l'autre de 10 francs. Je n'avais jamais songé à rapprocher les deux pièces, je le reconnais, et il m'est apparu en effet qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et elle m'a dit « Tenez, je vous en fais cadeau et vous en ferez l'usage que vous voudrez. » Et puis les protestations se sont enflées au fil des jours et des semaines, et à tel point que j'ai décidé de suspendre la distribution de cette pièce il y a 3 semaines et de faire faire une étude sur la question.
Et après l'étude, aujourd'hui, vous prenez votre décision?
La décision est prise.
Alors, ça veut dire qu'elle ne sera plus en circulation?
Ça veut dire qu'elle ne sera plus en circulation, ça veut dire qu'elle va prendre beaucoup de valeur pour les collectionneurs.
La mise en circulation de la nouvelle pièce est stoppée, mais cette pièce de 10 francs 86 ne prend en vérité aucune valeur car 87 millions d'exemplaires avaient déjà été frappés. Les Français, en tout cas, sont enchantés de la décision de Balladur.
La nouvelle pièce de 10 francs va être supprimée ? Eh ben, tant mieux.
C'est dommage qu'on ait investi des capitaux pour fabriquer une pièce et qu'on la retire du marché tout de suite.
Qu'est-ce que ça me fait ? Oui. Ben, je suis très contente parce qu'on était toujours à se demander si c'était une pièce de 50 centimes ou une pièce de 10 francs.
De toute façon, c'était un mauvais choix qui a été fait au départ parce que je crois que c'était sous le précédent gouvernement qu'avait été décidée cette pièce-là.
C'était déjà compliqué pour nous. On était obligé de la regarder de très près. Alors, je me mets à la place des personnes âgées qui perdaient peut-être 10 francs et pour elles, c'était beaucoup.
Alors, vous, les cafetiers, est-ce que vous êtes contents qu'on ait retiré la pièce de 10 francs ?
Ah oui, parfaitement. Ah oui, là, je suis très content qu'on enlève ça.
Tout à l'heure, j'en avais deux et j'en trouve plus qu'une. Alors, j'en ai encore filé une pour 50 centimes.
C'était l'amour à la plage, titre incontournable de Niagara en 1986.
1986, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Le 3 février 1986, une bombe explose dans la galerie marchande du Claridge sur les Champs-Élysées.
Ouais, quand je suis arrivé, c'était flippant, il y avait de la fumée partout, il y avait de la flotte qui tombait, qui dégoulinait. Enfin, il y a dû avoir des canalisations qui ont sauté. Puis bon, il y avait les mecs qui étaient allongés. Puis il y avait déjà des personnes en train de faire un garrot là, sur la personne assez âgée.
Comment ont réagi les gens quand ça a explosé genre...
Bah ils sont sortis, moi je suis sorti de la salle de jeu, j'ai vu des mecs, des garpires, des gonzesses, quelques personnes qui avaient du sang sur le visage. Il y a un bonhomme qui cherchait sa femme aussi. Tout la vitrine, les vitrines sur la gauche étaient mortes, sur la droite aussi.
Est-ce que les personnes, les blessés entre autres, ont parlé, ont raconté quelque chose, enfin...
Ouais, il y a un mec, je sais pas, il m'a dit qu'il avait le pied déchiré. La fille, elle avait mal à l'ange quand je l'ai assis par terre. Enfin, je sais pas, ça... C'est bordélique. Ouais. Bordélique.
Elle a rien vu, elle a rien dit.
Non, elle avait l'air ébahie dans les vapes. Elle était choquée plutôt. Choquée, on dit choquée, ouais, choquée, ouais, elle était choquée. Ça allait pas, quoi. Elle était... On l'a assis par terre. C'est flippant, enfin flippant, c'est impressionnant. Moi, ça me met les nerfs, quoi. C'est tout.
La bombe était placée dans une poubelle. Bilan, 1 mort, 8 blessés. Le lendemain, un autre attentat frappe la librairie Gibert Jeune, place Saint-Michel, toujours à Paris, et ne fait que des blessés légers. Et le lendemain encore, une bombe vise l'un des plus grands magasins Fnac de Paris, au Forum des Halles.
Il est 18h11, plusieurs milliers de personnes se pressent dans le Forum des Halles, le plus grand complexe commercial de Paris. Il y a des magasins de toutes sortes, des cinémas et sur plusieurs étages, la Fnac. C'est là, au 3e sous-sol, dans le rayon randonnée, là où se trouvent les sacs de couchage et les sacs à dos, que la bombe explose, comme le raconte cet employé de la Fnac.
J'ai entendu un grand bruit et puis ça a sauté, c'est tout.
Et après ?
Bah après, il y avait 6 blessés à évacuer, enfin, ils sont en train d'évacuer.
Et les mesures de sécurité dans ces cas-là, vous savez ce que vous devez faire ?
On sait tout à fait, d'autant plus qu'on a eu il n'y a pas très longtemps des exercices, donc ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de problème du tout.
Vous avez l'air essoufflé, vous avez eu peur ?
Bah non, mais là je viens de remonter, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas en très bel état, c'est pas très agréable.
22 blessés, le magasin est dévasté. Le ministre socialiste de l'Intérieur, Pierre Joxe, renforce la sécurité dans les métros, les gares et les aéroports. Car en face, l'opposition s'inquiète de la capacité du gouvernement à gérer la menace. Notamment Jacques Toubon, le secrétaire général du RPR.
Trois attentats de ce genre en trois jours, dans trois soirées différentes, c'est vraiment trop. Cela dément complètement ce que M. Joxe nous dit complaisamment, c'est-à-dire que le terrorisme est maîtrisé dans notre pays. La réalité démontre à tous les Français qu'il n'en est rien. Et d'autre part, je crois que nous nous interrogeons tous sur que fait le gouvernement, que fait la police. Je ne pense pas que les Parisiens, tous les Français, puissent admettre que désormais, aller dans un magasin, dans un centre commercial, dans un lieu public, ce soit une occasion de courir un danger mortel.
Les trois attentats sont revendiqués par le CSPPA, Comité de solidarité pour les prisonniers politiques arabes.
Tant que les trois terroristes amis du mouvement ne seront pas libérés, les attentats continueront.
Un mois plus tard, la droite remporte les élections législatives. Et Jacques Chirac devient Premier ministre. Et Charles Pasqua devient ministre de l'Intérieur. Mais la droite ne vient pas plus à bout des attentats que la gauche. Le lendemain des élections, un attentat vise le train Paris-Lyon. 9 blessés. Trois jours plus tard, le 20 mars 86, la galerie Point Chaud des Champs-Élysées part en fumée. 2 morts, 28 blessés.
Trop, c'est trop. Après les attentats des Champs-Élysées, du TGV, la psycho s'installe à Paris. Gare de Lyon, des milliers de voyageurs se bousculent pour un week-end de neige sous la protection toute symbolique d'une trentaine de CRS.
D'abord, on a été requis par des personnes. Il y avait deux colis qui étaient isolés. On a été requis par des gens en SNCF ainsi que des passants pour voir ce qu'il y avait dans ces colis, s'il n'y avait pas une bombe ou quoi.
En fait, il n'y avait rien du tout.
En fait, il n'y avait rien du tout, c'était une fausse alerte, mais les gens ont une psychose, ils ont peur.
Le phénomène est le même dans toutes les gares parisiennes. Sur les Champs-Élysées, Galerie Point Chaud, là où la bombe a explosé, des centaines de badauds viennent voir ce qu'il reste de la galerie marchande.
C'est quand même pas normal qu'on soit à tout bout de champ dans l'insécurité, que ce soit des innocents qui payent.
Il ne faut pas de haine, on est tous des êtres humains, il ne faut pas de haine, moi je ne suis pas pour la haine.
Et puis pendant 6 mois, plus rien, jusqu'au début septembre 1986. Et là, 7 attaques ont lieu en 13 jours. L'un des attentats touche la mairie de Paris, alors que le Premier ministre Jacques Chirac préside un conseil de défense pour prévenir la menace terroriste.
La cible visée, l'hôtel de ville, est un lieu symbole, un des fiefs de Jacques Chirac, Premier ministre, mais également maire de Paris. La bombe explose exactement dans le bureau de poste de l'hôtel de ville, situé au rez-de-chaussée du bâtiment et encore ouvert à cette heure-ci. Écoutez le témoignage de cet homme qui était dans la poste et qui a vu deux personnes au comportement suspect juste avant l'explosion.
J'ai vu deux Arabes qui se trouvaient dans les cabines téléphoniques en sous-sol. Et puis il y en a un qui est monté là-haut, il est redescendu, il a dit à l'autre en arabe, j'ai pas tout à fait compris ce qu'il lui disait, de venir en vitesse. Et l'autre est monté, ils ont cavalé, ils ont foutu le camp. Moi j'étais derrière, j'avais fini de téléphoner, je sortais. À quelques mètres plus loin, la déflagration et puis voilà.
L'explosion ravage complètement les bureaux. À l'intérieur, tout vole en éclats. On assiste alors à des scènes d'horreur et de panique. Des gens qui sortent ensanglantés en hurlant et d'autres qui ne se relèvent pas.
L'attaque contre la mairie de Paris fait un mort. Le Premier ministre Jacques Chirac se rend au chevet des 20 blessés et il réaffirme la détermination du gouvernement face au terrorisme.
Nous devons sans merci, je dis bien sans merci, engager contre lui une véritable guerre.
Si l'attentat d'hier n'a pas encore été revendiqué, les enquêteurs penchent bien évidemment pour la piste du comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient.
4 jours plus tard, la cafétéria casino du centre commercial de La Défense explose. 54 blessés. Et puis dans la même semaine, le pub Renault des Champs-Élysées, 3 morts. Et le service des permis de conduire de la préfecture de police de Paris, 1 mort. Et puis le 17 septembre 86, les terroristes frappent le magasin Tati de la rue de Rennes entre Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés.
17h20 hier, c'est l'heure du carnage. La bombe explose sur le trottoir juste devant le magasin Tati. L'explosion d'une violence inouïe frappe les gens dans un rayon de 50 mètres autour du magasin. À cette heure-là, il y a beaucoup de monde dans cette rue très commerçante et surtout des femmes et des enfants. La bombe était là pour faire un maximum de victimes parmi la foule. Tout de suite après la déflagration, c'est une vision d'horreur, comme l'explique ce témoin encore bouleversé à Vincent Parisot.
J'ai commencé par voir deux gosses, une vieille dame qui est tombée parce que je suis tombée par-dessus elle. Alors j'ai commencé par la relever, après ça j'ai vu deux gosses qui hurlaient, et un petit garçon qui avait la moitié de la jambe arrachée et qui était encore conscient. Je me suis demandé comment, et puis 4-5 personnes qui étaient allongées à côté devant la devanture de Tati qui ne bougeaient pas. J'ai eu le temps de réaliser quand même ce qui se passait, je me suis dit, ça y est, on explose, ça devait arriver, et c'était faramineux. En fait, c'était pas aussi violent que je le pensais, mais c'est surtout dans le résultat que c'est atroce.
7 personnes sont tuées rue de Rennes. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'année. La vague d'attentats s'arrête en fin d'année avec l'interpellation par la DST de Fouad Ali Saleh, un terroriste tunisien œuvrant pour le Hezbollah libanais. Le terroriste sera jugé comme logisticien de cette série d'attaques et condamné à la prison à vie.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
En novembre 1986, le gouvernement de Jacques Chirac traverse une énorme zone de turbulence. Car le ministre de l'Enseignement supérieur, Alain de Vacquet, planche sur une loi qui prévoit de sélectionner les étudiants à l'entrée des universités. Et cette loi, appelée la loi de Vacquet, agite immédiatement les étudiants de la fac de Nanterre, la fameuse fac d'où est parti mai 68. L'UNEFID, syndicat étudiant de gauche, appelle à la grève. Le ministre de Vacquet cherche à calmer le jeu.
Ces manifestations étudiantes, que je puis comprendre, me semblent plus résulter peut-être d'une mauvaise information sur la loi, qui peut m'être imputable, je le reconnais tout à fait, que d'un combat sur des problèmes de fond.
Vous pensez qu'ils n'ont rien compris ?
Non, je penserais que je me suis mal expliqué. Et c'est peut-être le défaut d'un jeune ministre qui fait pour la première fois une loi. J'ai passé beaucoup de temps sur cette loi, j'ai vu beaucoup de monde, mais peut-être n'ai-je pas fait, ou ai-je fait trop tardivement la présentation. Les groupes étudiants qui m'en ont parlé ont proposé des choses intéressantes, les députés le feront à leur tour, et peut-être qu'après ces dialogues, eh bien, la loi sera améliorée. Je crois que c'est une démarche tout à fait naturelle.
Les étudiants répondent immédiatement.
Nous avons su donner une première réponse à M. de Vacquet. Non, M. de Vacquet, nous n'avons pas mal compris votre copie. Oui, M. de Vacquet, nous confirmons, votre copie est mauvaise, ça vaut zéro.
À Nantes, des étudiants enterrent symboliquement leur université avec cérémonie, cantique et tout le toutim.
Aujourd'hui, on fait les funérailles de l'université tombée sous le coup de l'opération de Vacquet. Il y a un cercueil fait par les élèves de l'école d'architecture. Ils sont en pénitent en noir. Il y a une croix devant. Le cortège est entouré par des jeunes filles portant des cierges. La plupart des gens ont réussi de se vêtir en noir.
C'est un peu tristounet, là.
Mais c'était en pleine dignité, vous savez, nous sommes tous très éplorés aujourd'hui, nous souffrons beaucoup.
Alors moi, je suis une veuve éplorée, je suis en faculté d'histoire et j'aurais bien voulu me mettre en pleureuse grecque, mais ça m'a pas été possible, j'étais pas prête à me griffer les joues.
Et alors, pourquoi vous êtes comme ça?
Parce qu'on enterre notre mère, madame université.
Et des présidents d'université rejoignent les étudiants, comme celui de la fac parisienne de Tolbiac.
C'est un texte qui a le mérite au moins d'être tellement clair que tout le monde se met en grève. Il y a déjà une dizaine d'universités qui sont en grève, un certain nombre d'autres qui ont des assemblées générales aujourd'hui ou demain. Je pense que c'est un mouvement qui non seulement risque de s'étendre, mais d'aller relativement loin. Et il serait bon que le gouvernement s'en rende compte avant le Sénat. Il peut toujours déposer des amendements sur son propre projet, ce qui permettrait aux étudiants d'être satisfaits parce qu'ils garderaient leurs acquis des combats étudiants précédents. Et je pense au gouvernement de se rendre compte qu'on ne fait pas n'importe quoi sans d'abord en discuter avec les principaux intéressés.
Le 22 novembre 1986, 200 000 personnes manifestent dans les rues de Paris. Des ténors socialistes sont dans le cortège, comme l'ancien Premier ministre, Pierre Mauroy.
Je crois qu'il faut manifester pour assurer l'avenir de la jeunesse et l'avenir aussi de l'école de tous. De très graves menaces pèsent sur l'éducation nationale, sur les associations de jeunesse, sur tout ce qui a été fait dans le domaine des universitaires et aussi pour ce qui concerne la recherche.
Pour vous, Monsieur Monroy, c'est la première grande manifestation de gauche?
Oui, le petit jeu ici consiste à nous demander quand nous avons manifesté pour la dernière fois, mais nous avons tous des souvenirs bien précis. En tous les cas, nous sommes à notre place, en tête du cortège des manifestants.
C'est pour manifester l'opposition au gouvernement?
Ah ben évidemment, si nous manifestons et si nous ne sommes pas contents et si nous parlons de menaces, c'est parce que justement il y a une politique réactionnaire du gouvernement, d'ailleurs dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans le domaine de l'éducation nationale.
La cohabitation Mitterrand-Chirac conduit à des situations étonnantes. Des proches du chef de l'État qui manifestent contre la politique du gouvernement. Mais Chirac ne bouge pas d'un iota. Alors le 22 novembre au soir, le président de l'UNAFIDE, Philippe Darula, prévient. Ça va péter.
Il paraît même qu'il va y avoir des projets d'amendement de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale qui aggraveraient encore la loi. Par exemple, qui au lieu de faire des droits d'inscription qui prennent du simple au double, iraient du simple au triple. Qui ferait que les étudiants non inscrits par les présidents de l'université suite à la sélection à l'entrée de l'université, c'est-à-dire en fait les bacheliers, ne pourraient plus être inscrits par les recteurs. Alors non seulement on ne va pas dans le bon sens, mais tout semble indiquer qu'on va dans le sens d'une aggravation. Et dans la situation actuelle, il est clair que c'est l'explosion qui se prépare à l'université.
Le mouvement se durcit et s'amplifie. Les assemblées générales des facultés attirent maintenant des non-syndiqués.
Les états généraux du mouvement étudiant réunis le 22 novembre à la Sorbonne appellent tous les étudiants de France à se mettre en état de légitime défense en organisant, dès lundi 24 novembre, la grève générale des universités.
Et la situation se complique quand d'autres étudiants décident de soutenir la loi de Vaquer.
Je suis contre le mouvement de grève parce que les gens sont contre la sélection qui nous est proposée et finalement on en arrive à un enseignement très moyen au bout de 2 années. Je préfère me joindre au projet que l'on nous propose afin d'avoir un meilleur niveau et un meilleur diplôme sur la fin, qui est une meilleure valeur qu'il n'a maintenant.
Ces étudiants, évidemment, sont étiquetés à droite. Et ils dénoncent les manifestations de l'UNAFIDE contre la loi de Vaquer. Bref, ils défendent le gouvernement.
Nous, on pense que c'est de la récupération étudiante. Il s'agit en grande partie d'une manipulation politique et qu'ils entraînent dans leur sillage des étudiants qui ne sont pas engagés. Ils sont minoritaires et qu'ils ont réussi pour l'instant à entraîner des étudiants qui n'ont encore pas lu le projet d'assez près. Parce que ce qui nous sidère, c'est que très souvent les étudiants qui se mettent en grève dans les amphis ne connaissent pas du tout le projet. Le but poursuivi par ces syndicats, recruter dans les facultés, refaire leur santé autour de la loi de Vaquer.
Toutes les facs de France sont à l'arrêt ou perturbés. Et voilà que les lycéens s'y mettent. Le 24 novembre 86, à Paris, les étudiants grévistes de la Sorbonne rameutent les lycéens de Louis-le-Grand et puis ceux de Victor Hugo. Le mouvement prend une ampleur folle. En fin de journée, il n'y a quasiment plus aucun lycéen en cours. Ils sont tous dans les rues du quartier latin en train de manifester, eux aussi, contre la loi de Vaquer. Et ils l'assurent. Ils ne sont pas manipulés par les syndicats. Ils luttent pour leur avenir.
Là, ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de rassembler ce mouvement au Panthéon pour pouvoir faire une grande réunion et essayer d'englober tout ça, essayer en fait d'organiser tout ce mouvement. Parce que ça, c'est un mouvement spontané qui demande une organisation.
Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de syndicat?
Non, il n'y a aucun syndicat. C'est un mouvement qui concerne c'est un mouvement spontané qui concerne tous les étudiants.
Tous les étudiants et lycéens qui sont contre le projet de Vaquer, qui est un projet réactionnaire de destruction des universités françaises, d'une américanisation des universités françaises et d'une privatisation des universités françaises.
Le lendemain, dans le 5e arrondissement de Paris, des étudiants grévistes de Jussieu sont pris à partie par une trentaine d'étudiants du GUD, d'extrême droite.
Ces jeunes qui sont venus étaient armés principalement de grosses bombes lacrymogènes paralysantes et puis de battes de baseball. Je pense que c'est surtout un choc moral. Et de voir que notre mouvement, qui est avant tout un mouvement, je pense, pacifique, apolitique, et il y a une volonté de certains de déstabiliser complètement la situation et déstabiliser le travail qu'on fait, le travail de réflexion sur l'université en général.
Le lendemain, étudiants d'extrême droite et d'extrême gauche s'affrontent avec une violence inégalée. Plus personne ne semble maîtriser la situation. Mais une fois encore, le gouvernement ne cède pas et ça excède les étudiants.
On ne parle pas avec les démocrates en ce moment parce qu'un million de personnes dans la rue, ça ne leur a pas suffi. Moi, je ne comprends pas parce que bon, le projet Savary sur les écoles privées a été retiré. Il a été retiré, il y a eu 1 million de personnes dans la rue, le gouvernement a compris, ils ont retiré le projet sur les écoles privées. Là, il y a eu 1 million de personnes dans la rue, ça ne leur a pas suffi. Alors avec qui on parle? On se demande. Hein. Ils se servent de la liberté, de la démocratie quand ça les arrange.
Les jours passent, la situation semble être dans une impasse, d'autant que les manifestations dégénèrent parfois. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, prévient. Maintenant, ça suffit. Vous allez me calmer ces hurluberlus et ces chevelots. Des étudiants, ça étudie. Point final. Tout cela a assez duré. Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, demande aux forces de l'ordre de faire preuve de plus de fermeté pour mater la révolte estudiantine et pour éviter un nouveau mai 68. Mais le 4 décembre, une nouvelle manifestation est émaillée de violence. Les heurts entre étudiants et forces de l'ordre font de nombreux blessés des deux côtés. Et le père d'un lycéen tire la sonnette d'alarme sur Europe 1.
Nous sommes au seuil de la barbarie. La première réaction, c'est celle d'un père qui est affligé de voir son fils qui a une fracture du crâne, alors que, en tant que jeune lycéen, il défendait ses intérêts et les intérêts concernant son avenir. Il me semble que quand on en est rendu à tirer sur des lycéens qui sont tout à fait désarmés face à une police, elle, tout à fait équipée, je pense que nous avons des dirigeants, et je pèse mes mots, j'en prends la responsabilité, relativement irresponsables.
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, la police déloge des étudiants qui occupent l'université de la Sorbonne. L'évacuation se déroule sans problème et sans violence. Mais il est minuit et la nuit est très loin d'être terminée. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, le sait très bien. Je crains que nous n'en ayons pas fini avec ces gauchistes. Soyons certains que des casseurs et des professionnels de la déstabilisation vont saccager le quartier latin cette nuit. Il nous faut nettoyer le quartier. Son bras droit, Robert Pandreau, mobilise alors les voltigeurs de la préfecture de police, des policiers à moto munis de matraques. Et dans le 6e arrondissement, ils prennent en chasse un jeune homme et Paul, 26 ans, assiste à toute la scène. Et il témoigne sur Europe 1.
J'étais dans la rue Racine, je revenais d'un cinéma, enfin, j'étais allé raccompagner une amie. Et il y a eu une charge de CRS en moto dans la rue Racine, je me suis précipité chez moi. J'ai un peu paniqué pour taper mon code. J'ai quand même réussi à ouvrir ma porte. Et le jeune qui a été tué s'est précipité derrière moi, je l'ai laissé rentrer. Et j'ai essayé de fermer la porte au CRS. Mais les CRS, malheureusement, ils ont mis un bâton pour empêcher de fermer la porte. On s'est fait tabasser tous les deux, il est mort.
Les CRS ont été brutaux, c'est confirmé.
Oui, ils ont surtout matraqué Malik. Ils ont tous deux matraqué surtout Malik, parce que sinon, moi, je serais sans doute dans le même état que lui.
Qu'est-ce qu'il disait, ce jeune?
Il disait, laissez-moi.
Malik Oussekine meurt des suites de ce tabassage. Il avait 22 ans. Et il sortait d'une boîte de jazz. Il était étudiant, oui, mais il n'était pas manifestant. Il ne menaçait pas les policiers.
J'étais juste ici, là, devant. J'étais à peu près à une cinquantaine de mètres. Et juste à côté du feu rouge, à un certain moment, il y avait les flics, c'est-à-dire les CRS, qui barraient la route des deux côtés. Ils étaient deux par moto, un qui était derrière avec une matraque et l'autre qui conduisait. Et ils se sont arrêtés au niveau du feu rouge, au niveau de la rue Racine. Et là, je les ai vus à trois sauter et s'acharner contre un mec.
Et ça vous a paru violent, la manière dont ils l'ont agressé?
Violent, vous savez, à un certain moment, j'ai oublié que j'étais en France. J'ai cru qu'on était en Amérique du Sud ou un truc comme ça.
Ils sont descendus, semble-t-il, de leur moto pour venir le frapper?
Ils sont descendus de leur moto, je les ai vus, ils l'ont attrapé. Il y en a même un qui... Tu les as vus, toi aussi? Ils l'ont attrapé carrément. Ils étaient à trois acharnés contre lui. J'en ai même vu un qui avait avec son pied, là, il a frappé avec son pied. Ouais, tu l'as vu?
Il y avait vraiment de quoi avoir la trouille avec la réaction des CRS.
Et ça s'est passé comment? C'était des coups de matraque, des...
Un matraque et mains et pieds. J'ai plus vu les poings et les pieds que la matraque.
Le lendemain du drame, une marche silencieuse rassemble plusieurs milliers de personnes à Paris. Et Europe 1 capte un échange entre étudiants et CRS.
On ne vous demande pas de répondre en fonction de votre uniforme, mais en tant qu'homme, en tant que père, comment vous réagissez à un enfant de 22 ans qui est battu à mort? Quelle peut être la réaction de son père? Ça aurait pu être votre fils.
Est-ce que c'est vraiment rétablir l'ordre que de frapper un mec
c'est pas,
à mort?
C'est pas vos trois barrettes de capitaine, on ne vous demande pas de répondre en tant que ça. En tant que père, comment vous pouvez réagir à ça? Comment vous pouvez accepter que le corps que vous servez ait massacré la tête d'un type de 22 ans? Vous êtes rentré certainement par conviction dans la police. Hein? Moi, personnellement, j'ai du mal à accepter qu'on peut se taire par rapport à ça.
Dans la foulée, le ministre de l'Enseignement supérieur de Vaquer présente sa démission. Jacques Chirac retire le projet de loi. Et le peloton des voltigeurs de la préfecture de police de Paris est dissous. Au 20 rue Monsieur le Prince, vous trouverez aujourd'hui encore une plaque à la mémoire de Malik Houssekine. À la mémoire de Malik Houssekine, étudiant de 22 ans, frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 1986. Ce qui est factuellement faux, puisque Malik Houssekine n'est pas mort au cours d'une manifestation et qu'il n'est pas expliqué que ce sont les policiers qui l'ont tué.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
Quoi? De notre amour fou ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre. C'est à laisser ou à prendre. Joie et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre. Dites-moi pas sans j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien sûr de comprendre. Amour cruel comme un duel. Choix des armes, au service des larmes, pensez-y, pensez-y, et qu'on soit.
On referme l'année 1986 avec ce titre de Gainsbourg, Quoi, interprété par Jane Birkin. Merci à Guillaume Maury, à Julien Pichenet d'avoir fouiné dans les archives pour moi. Réalisation signée Guillaume Vassot. Et la bise à Laetitia Casanova et aux autres à la documentation d'Europe 1. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres récits consacrés à d'autres années.
Retrouvez On de la traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.